On fait un film sur Godard, ça a l'air grave, et on fait un film sur Sarkozy, tout le monde s'en fout. Donc je trouve ça quand même assez génial. Voilà.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Una are to vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous. We're gonna be fine. Now, go wait.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Ce carton, avant même les premières images, agit presque comme une mise en garde. Attention, tout ce qui va arriver dans ce film est vraiment arrivé dans la vie. Alors question, à quoi bon regarder le film? Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un héros d'emblée célèbre, une histoire connue, bref, un biopic, contraction de Biographical Motion Picture. Une œuvre centrée sur la description biographique d'un personnage principal ayant réellement existé. On s'endort déjà à cette définition. Le biopic existe depuis l'invention du cinéma en France. Il connaît un regain dans les années 80 et encore plus depuis 10 ans après l'immense succès de La Môme. Heureusement, cette rentrée nous propose quelques spécimens intéressants et vraiment décalés. Et nous les décrypterons avec vous. Bonjour Thomas Borez.
Bonjour.
Journaliste ciné à Studio Ciné Live et France 24. Ensemble, nous écouterons Vincent Cassel réincarné Gauguin, Mathieu Amalric Barbara et Bruno Dumont dans sa version musicale et dansée de Jeanne d'Arc, bref, des biopics loin du biopic classique. Les sorties de ce nouveau mercredi, une enfant surdouée, Mary, un prof dans le 9-3, les grands esprits, un huis clos en noir et blanc, The Party, un pilote escroc, Barry Seal, American Traffic, ou un homme travesti en femme, Nos années folles.
Souvent dans les biopics, on se consacre à essayer de raconter d'où ça vient le génie, et ça c'est un petit peu difficile à raconter, ça donne lieu à des scènes souvent qui sont un peu embarrassantes, alors que
vous,
ce que ça coûte...
Vous évoquez quoi là?
Rien en particulier, mais on peut imaginer quelqu'un qui créerait My Way en direct, la chanson,
ouais.
Voilà.
Oui, ça c'est terrible.
Donc voilà, et donc ici on a essayé de raconter ce que ça coûte, ça on sait à peu près. On sait ce que ça coûte de faire du cinéma, ce que ça coûte de faire des scénarios, de réaliser des films, de jouer la comédie. On peut se poser la question et essayer de trouver des réponses, c'est plus difficile sur le génie.
Thomas Bidguin, à propos de Saint-Laurent qu'il a coécrit avec son réal Bertrand Bonello, plutôt que de montrer comment il devient Yves Saint-Laurent, ce qui était le but de l'autre film réalisé par Jalil Lespère, Bonello s'attachait à montrer ce qui lui en a coûté tous les jours d'être Saint-Laurent. C'est une démarche passionnante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Thomas Borez, question, ce serait quoi le biopic idéal? L'antibiopic?
Oui, l'antibiopic, ce serait peut-être celui de Mathieu Amalric, un cinéaste qui s'interroge comment faire le film qu'il a envie de faire. Et donc, s'interrogeant sur qu'est-ce qu'on fait d'un personnage célèbre qui charrie derrière lui déjà une histoire, un passé. Est-ce que c'est trop encombrant? Et c'est une manière de... Cette réflexion, en fait, permet de désamorcer toutes les pesanteurs, les écueils du genre, celui que vous avez si bien décrit en préambule.
C'est intéressant parce que souvent, les biopics sont générés par les producteurs. Et du coup, là, c'est vraiment une démarche d'auteur que celle d'Amalric.
Mais oui, c'est en général un producteur se dit tiens, ça va être les centenaires de telle personne,
ouais,
et on se dit bah tiens, c'est l'occasion, il va y avoir la grande expo, il va y avoir les hors-séries un peu partout, et donc il faut le film. Et c'est vrai que souvent c'est des fausses bonnes idées parce que les films sont pas forcément à la hauteur de l'attente. Après, ça permet, on imagine, aux classes d'emmener leurs enfants, aller à l'école, voilà.
C'est peut-être juste l'occasion de dire en deux mots que le genre biopic appartient non pas aux États-Unis, non pas au cinéma américain, mais à l'histoire elle-même du cinéma, puisque le cinéma naît en décembre 1895 et le premier biopic, ça doit être avril 1896. C'est-à-dire qu'il n'a pas fallu 5 mois pour qu'il y ait un premier biopic qui, évidemment, était consacré à qui? À Jésus-Christ, évidemment. Et après, il y a eu l'affaire Dreyfus. Donc les deux premiers biopics, ce sont des victimes de l'opinion publique qui sont montrées sur un grand écran. C'est assez rigolo de savoir.
Et intéressant. Et pour ouvrir cette heure, une chanson de Barbara, Pierre, que Mathieu Amalric n'a pas réussi à mettre dans son film, il n'a pas eu la place.
Il pleut. Il pleut sur les jardins à l'envi, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli la pluie. Quand Pierre rentre raille, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici. Oiseau de nuit qui fuit, que c'est beau cette pénombre, le ciel, le feu et l'ombre qui se glisse jusqu'à moi sans bruit.
Des destins d'exception, c'est ce que tentent de capter les biopics. On exclura pour l'heure les biopics américains qui en produisent à la chaîne pour observer ce phénomène en France. Je le disais, en recrudescence depuis les années 80 et surtout depuis 2007, le grand succès de La Môme. Piaf a traversé les frontières et a valu à Marion Cotillard son Oscar. D'ailleurs, Thomas Borrez, on parle souvent de performance. Hein,
pour oui, acteurs. et c'est un terme très américain, puisque aux États-Unis, il y a tout acte. Jouer donc et tout performe, la performance. Et c'est pour ça qu'à mon avis c'est un genre que le cinéma américain a très vite digéré, parce que justement ça suppose que l'acteur doit aller au-delà du jeu, mais de faire une performance. D'ailleurs, ce qu'avait fait Marion Cotillard.
Une Oscar.
Oui, c'est ça, une usine à Oscar. C'est vrai que quand on avait vu Marion Cotillard, ça semblait un petit peu, tout semblait complètement forcé. On était presque à la limite de l'expressionnisme un peu décalé. Et voilà, et ça a plu aux États-Unis. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'en France, on s'est souvent interdit de le faire.
Une petite usinette à César quand même, avec Catherine Pierre Ninet pour Saint-Laurent, Catherine Fraud, Elmos Nino pour Gainsbourg. Là aussi, ça rapporte.
Oui, ça rapporte, hein, parce que tous ces acteurs-là ont décidé de faire de la performance. Et donc, c'est du mimétisme. Hein. Louis Garrel, le dernier en date, avec Le Redoutable, ils sont là-dedans.
Contrairement à Michel Bouquet qui fait de l'incarnation pour Robert Guédiguian dans Le Promeneur du Champ de Mars. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de voir François Mitterrand sur l'écran du tout, mais en même temps, il y a une vraie incarnation.
Et l'imitation beaucoup plus délicate lorsqu'il n'existe pas de représentation du héros. Exemple donc Gauguin, le film d'Edouard Deluc qui sort mercredi prochain et dans lequel Vincent Cassel n'a pas besoin d'artifice pour incarner l'homme. On se souvient pourtant du Rodin de Jacques Doyon avec Vincent.
Puis on oublie Cézanne et Guillaume Gallienne.
Avec l'accent.
De Daniel Thompson.
Ce qui est terrible dans ces films, Thomas, on le disait un petit peu avant, c'est quand ils croisent d'autres personnes célèbres dans le film.
Ah, ça, c'est un peu le piège. C'est-à-dire que l'idée d'envoyer Gauguin, il y a une riche idée d'ailleurs, Gauguin avait peut-être anticipé le film qu'on ferait sur lui. Il est parti très très loin, comme ça, on n'a pas les scènes. Oh, regardez, monsieur Renoir. Regarde, c'est Renoir. Regarde, c'est Manet. Hein. Donc, ça, c'est toujours un peu des exercice toujours un peu ridicule. Et c'est vrai que là, le film évite cet écueil-là.
Voilà, il se focalise sur une période de la vie du peintre, son premier voyage à Tahiti, pour symboliser au fond l'essence du personnage, l'exil, la quête, la création, l'amour. On va écouter tout de suite Vincent Cassel avec Édouard Deluc.
Je continue mon chemin. J'ai un but. Je vais te prouver que j'ai raison. Je suis un grand artiste, et je le sais. C'est parce que je le suis que j'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie. Sinon, je me considérerais comme un brigand. Il y aura bien un jour où nos enfants pourront se présenter devant n'importe qui et n'importe où, avec le nom de leur père comme protection et honneur.
Vous l'avez appelé Gauguin, un peu comme Sidney Pollack a appelé Jeremiah Johnson, finalement, le nom, c'est vrai, le nom de son héros, d'un film d'aventure avant d'être un biopic.
C'est la quête d'un homme, et c'est vrai que si on doit, on ne peut pas le résumer à un genre. Après, c'est autant un roman d'aventure qu'une romance, qu'un film sur la quête de soi. Il y a plein de gens, et c'est un western. Et c'est ce matin, on parlait d'un survivor. C'est vrai qu'à un endroit, c'est un survivor. Donc moi, j'aime bien être à la croisée de tous ces genres-là et déjouer un peu les conventions. Mais c'est effectivement plus un film sur un homme qu'un film sur un peintre. Il aurait pu s'appeler Dominique Leblanc, il s'appelle Paul Gauguin, mais à un moment on a même essayé d'imaginer si ce n'était pas Paul Gauguin, pour pas être écrasé par le poids de l'histoire et de l'icône qu'il représente.
D'ailleurs, on vous voit peu peindre, ce qui est plutôt bien, hein, parce que on sait qui c'est, mais il faut quand même choper le geste de ça.
Absolument, et très vite je me suis inquiété de ça, parce que même si ce n'est pas moi qui peins dans le film, je trouvais que c'était important que je sois crédible, tout simplement, en tenant ses ustensiles et tout. Donc j'ai un mec qui est venu m'aider et qui a été vraiment très très bon, qui m'a fait peindre, et qui m'a même fait, je dois dire, prendre goût à la peinture. C'est-à-dire qu'en m'expliquant le pourquoi du comment, la technique de Gauguin, et en me faisant peindre, en fait, j'ai l'impression que ça a été pratiquement mon... Ça et le fait de perdre du poids, ça a été finalement les deux axes sur lesquels je me suis appuyé pour préparer le film.
Moi, j'ai pas cherché la ressemblance. Le visage de Vincent, il est apparu pendant que j'étais en train de lire à la fois Somerset Maugham, L'Envoûté et Noah. Et en fait, ça s'est imposé comme ça. Mais c'est pas une photo de Gauguin qui m'a fait dire ah ça pourrait être Vincent. Non, Vincent, ce qu'il est, ce que je lisais de Gauguin et l'idée que j'avais, l'image que j'avais de Vincent, ce que je percevais de lui, les deux se sont mêlés et c'est dans mon imaginaire que ça s'est construit, qu'à un moment j'avais eu besoin d'un visage aussi pour continuer à échafauder le film en moi, et c'était évident, et il l'a, je pense, su et senti très vite. C'est pour ça qu'il a très vite dit oui au projet.
Bah, c'est-à-dire qu'on était tous les deux très vite conscients de l'écueil du film de peintre. C'est-à-dire que un film de peintre, on s'en fout, à qui ça parle, etc. Donc ce qui était intéressant, c'était vraiment de faire l'histoire d'un homme qui soit suffisamment intéressante pour tenir en tant que tel. Il se trouve que ce mec s'appelle Paul Gauguin, il se trouve que le mec fait de la peinture et que c'est un génie. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui se retrouve... Pour moi, le scénario s'est cristallisé vraiment de manière très très concrète quand on a mis en avant un peu plus l'histoire d'amour avec Théora. C'est-à-dire que... Pour moi, les choses se construisent autour du fait qu'à un moment, ce mec se rend compte qu'il ne sera jamais le sauvage qu'il rêve d'être, et qu'il est déjà trop tard pour lui pour pouvoir satisfaire cette jeune femme. Il a cette relation, mais elle est vouée à l'échec. Et ce truc-là, je le trouve vraiment, vraiment touchant. C'est-à-dire que se rendre compte que c'est trop tard, alors qu'on a encore envie des choses, quoi. Quand il part, c'est je trouve ça assez, assez déchirant.
Ce type est fascinant quand même, non, hein, au-delà. En plus de ses peintures, de cette recherche, de cette volonté de... Parce que c'est l'histoire d'un échec permanent, en fait, hein, ce film aussi.
Oui, de son point de vue à lui, ça sera un échec, puisque je crois qu'il avait de la considération pour la peinture. D'ailleurs, il y a une scène dans le film où à un moment, le personnage joué par Malik Zidi vient et lui dit « Mais c'est vraiment très très beau ». Et en fait, c'est la première fois qu'on lui dit que ce qu'il fait est beau. Et du coup, je crois qu'il est profondément touché à ce moment-là. Il a un besoin de reconnaissance, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est lui-même le moteur de ses décisions. C'est-à-dire que, envers et contre tous, il sait que ce qu'il fait est important. Il a une mission à accomplir. Alors, oui, c'est un échec permanent, mais finalement, aujourd'hui, c'est le peintre moderne vendu le plus cher. Ça lui aurait fait plaisir, mais il ne le sait pas.
Et surtout pas un biopic, Vincent Cassel.
On peut encore questionner l'appellation biopic. Biopic, j'ai l'impression que c'est un film sur la vie de quelqu'un qu'on connaît parce qu'on l'a vu dans des interviews, parce qu'on l'a vu bouger. Sinon, je veux dire, n'importe quel personnage réel à partir du moment... Enfin, ayant existé, si on fait une... Est-ce qu'un film sur Louis XIV, c'est un biopic ? Je ne sais.
Ça dépend de la forme après.
Je ne sais pas en fait. Je crois que c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que d'abord biopic, c'est un terme qui est assez récent finalement, et je crois que ça laisse entendre que c'est, je sais pas, on parle du biopic de Ali, le biopic de Edith Piaf, de Ray Charles, mais je veux dire, dès que c'est un personnage historique dont on n'a pas vraiment des images, je crois que ça, on peut plus appeler ça un biopic, c'est un film historique.
Parenthèse, Mesrine Mérine, c'est un biopic.
Alors, on peut dire ça si vous voulez. Le seul avantage, j'allais vous dire, avec le film de Mérine, c'est qu'on n'a pas d'image de Mérine. On sait pas. On a des photos, mais on sait pas comment il bouge, on sait pas comment il parle. Et du coup, moi, en tant qu'acteur, et je pense même pour le metteur en scène, dans le cas présent même, c'est que quand on n'a pas d'image, on a un champ de liberté beaucoup plus large, parce qu'on peut imaginer et inventer une réalité, plutôt que de se coller à quelque chose qui existe en étant obligé d'imiter, par exemple. Non mais c'est très compliqué, c'est-à-dire que maintenant on met le mot biopic un peu à toutes les sauces. Si j'étais un peu cynique, je vous dirais, tiens, c'est peut-être parce qu'il y a un manque d'imagination de la part des scénaristes, parce que c'est important aussi d'inventer des personnages de fiction qui tiennent et qui semblent être réels. Après, je sais pas si c'est une mode, hein, y a toujours eu, j'ai regardé, sinon c'est une mode qui a commencé il y a 30 ans, quoi, ou 40, parce qu'il y a eu des films sur à peu près tous les peintres depuis des années, quoi. Il y a un truc depuis les années 60, il y a des trucs qui se font.
Et vous-même, après Mesrine, Mérine, on vous a proposé Dali, Montand. Ouais.
Oui, mais le problème, c'est que moi, des personnages aussi hauts en couleur que Dali et Montand, je l'ai dit, moi, à un moment, au producteur, j'ai dit, mais enfin, je veux pas arriver sur une scène en prenant l'accent et en faisant, bicyclette, j'y arriverai pas, ça me fait chier, j'ai pas envie. Moi, ce que je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, on va faire comme a fait Bouquet avec Mitterrand. C'est-à-dire que, on fait l'histoire de Montand, mais jamais j'imite Montand.
Oui.
Non, lui, il avait fait Mitterrand, mais pour Montand. Jamais j'imite Montand, jamais je prends l'accent, jamais je prends la démarche. C'est l'histoire d'un jeune mec italien, comme ça, qui grandit, qui devient chanteur, qui est là, mais on s'en fout de savoir si je ressemble à Yves Montand. Et bon, évidemment, ça les a un peu refroidis.
Il a tout dit, là, Vincent Cassel.
Il parle très très bien, ouais. Et surtout sur la forme biopic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas les vraies images, on ne sait pas comment il bouge, il y a une liberté qui s'arrête quelque part, et du coup c'est pas mal.
En revanche, lui avait les vraies images de Barbara et en a fait quelque chose d'incroyablement original, c'est Amalric, puisqu'il a carrément mis en scène son obsession, c'est ça le plus passionnant, en imaginant un cinéaste réalisant un film sur elle, et face à lui, bien sûr, Jeanne Balibar, le diamant noir de ce film. On écoute Mathieu Amalric.
Bonjour. Un livre, s'il vous plaît.
Vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous?
C'est pareil.
C'est pareil?
Oui, un jour vous m'avez chuchoté à l'oreille, et puis à 16 ans, mais la vie est modifiée. Fais de ta vie ce que tu veux, mon chéri, c'était une berceuse. Non, coupe. Une berceuse que ma mère ne chantait pas, ou une amie, ou une maîtresse, ou je...
Tenez.
Qui prend sur ses épaules toute la tristesse qui s'est évaporée d'un coup. Vouloir recommencer, ne pas perdre espoir, tout ça, c'est grâce à ces chansons.
Bonjour, Brigitte.
Ah, bonjour. Ah ben, je suis contente de te voir.
Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Barbara n'est pas un biopic. C'est quoi un biopic?
Mais moi, j'aime bien, comme spectateur, voir les biopics. C'est étrange, non? On a une pulsion pour ça. Parce que... Eh ben, c'est la croyance, quoi. En tout cas, on est, des modes divers d'incarnation. Alors, on peut le faire avec des prothèses, on peut le faire avec plein de choses. Et là, ben, c'est vrai, avec Jeanne, on s'est plutôt dit, tiens, si c'était plutôt Victor Hugo qui faisait tourner des tables, quoi. Vous voyez? Ben, c'est-à-dire que du coup, peut-être, Barbara, quand vas-tu venir?
Il y a aussi là, le film commence par cette chanson pour une absente. Mmh. C'est le projet d'un biopic, ça, justement. Oui. Ce film va faire revivre une absente.
C'est vrai. Oui, on y a pensé. C'est une chanson qu'elle a écrite pour la mort de sa mère, ça s'appelle Chanson pour une absente, oui. Ou le 6 novembre. Et,
C'est une ouverture comme une note d'intention.
Oui. Et c'était, donner cette chose que tout de suite vous n'allez pas forcément voir quelque chose de fini, mais peut-être quelque chose d'infini, mais dans tous les sens. C'est-à-dire une chanson en construction, parce que finalement, là où j'ai commencé à m'exalter dans l'écriture, c'est quand, tout d'un coup, mais oui, si c'est une actrice qui doit jouer Barbara, je peux peut-être m'approcher du travail, de comment les chansons lui venaient. Et qui travaille ? Jeanne Balibar travaille ou Brigitte travaille ? Et ça devenait pour eux, et du coup, indicible et miroitant, quoi.
À un moment, Balibar, Brigitte, vous dit, vous faites un film sur Barbara ou faites un film sur vous ? Et vous répondez, c'est pareil. Mmh. Et quand on voit l'affiche avec Balibar, Barbara, Amalric, c'est un film sur vous, sur Barbara, sur Jeanne et sur Jeanne et vous.
C'est-à-dire, avant tout, c'est un film sur Barbara. Franchement, c'est-à-dire, en tant que moi, mon boulot, pour le spectateur, parce que je suis spectateur en fait, hein, c'est ça mon boulot, c'est qui est du Barbara puissance 1000. Plus qu'un biopic enfermé dans un seul mode de récit n'aurait pu proposer le voyage. Là, il y en a plusieurs. Bon, ça c'est mon boulot. Et je pense que là, je vois, parce qu'on a fait quelques avant-premières, il y a des gens qui savent absolument rien de Barbara, ou même Uma Thurman, par exemple, qui donne un prix de la poésie. Elle n'avait jamais entendu parler de sa, cette femme. Ah oui. Et ben, ça lui a fait quelque chose.
Ça a résonné.
Ah ben oui, c'est ce qu'elle m'a dit.
Mais elles ont une singularité équivalente, les deux, et Balibar et Barbara. On s'en fout de la ressemblance, c'est presque.
Ça. C'est ça. C'est ça, dès le moment où vous vous occupez pas de la ressemblance, ce qui était le cas, parce qu'on était plutôt du côté de l'analogie, de la rime, du coup, ça s'ouvre, ça s'ouvre.
En même temps, la ressemblance est troublante, hein, quand vous mêlez incroyable, archive et elle, Balibar, au piano ou en voiture, c'est très troublant, ça.
C'est très troublant, et c'est un des modes d'incarnation que le cinéma peut proposer.
C'est-à-dire qu'elle est tellement bonne qu'elle arrive à lui ressembler, beaucoup plus qu'à une question de physique.
Oui, c'est ça. Elle a dit une phrase vachement bien, Jeanne, qui résume tout, c'est « Si je ressemble à Barbara dans ce film, c'est parce que c'est mon métier. » Et c'est tout à fait ça.
Pour ma peau, je mange bien une petite bouillabaisse.
Une bouillabaisse à Châteauroux ? Bon, il y a quoi à voir à Châteauroux, sinon ?
Non, mais on peut pas visiter une ville et puis aller chanter après, ça. Je sais pas, on peut pas. Parce qu'alors, je dépense une énergie, donc déconcentre, je pourrais pas, enfin, je voudrais bien faire les deux, je pourrais pas être propre, être touchée par les choses, parce qu'on est bouleversé dans la rue par les choses, alors ça prend l'énergie. Et...
Non, moi j'ai besoin d'aller directement, là, comme les chevaux, hop.
C'est après l'Indien, le rouge que vous voulez, dont vous me parliez.
Le rouge, alors bleu. Non, bleu, blanc, rouge, ça me plaît qu'à moitié, ça. Non, là du rose, là du bleu, un peu, pas trop. Là, pour suite, quelques gélatines, et puis, voilà, salut la compagnie, salut les copains.
Mais vous êtes tout le bonheur, je sais bien que rien n'y paraît.
De toute façon, t'en fais pas, parce que je te ferai des signes, tu sais, te fais pas de mouron, hein.
Moi, j'attends le biopic sur Balibar, à moins que ce soit aussi un biopic sur Balibar, finalement, ce film Barbara Laurent.
C'en est un, et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas Lisa Azuelos qui l'a réalisé, parce que, évidemment, la grande différence, c'est, quand elle fait Dalida, c'est abominable. C'est-à-dire qu'on a l'impression de, on voit Dalida, mais quel intérêt, effectivement, comme on disait tout à l'heure, quel intérêt? Alors qu'effectivement, avec Balibar, Amalric parle de lui, il parle d'elle, il parle même, quand même, d'un personnage dont il a dit, dans la presse, que, au début, il pensait que Barbara n'existait pas. C'est étonnant, ça. C'est-à-dire qu'il écoutait Barbara sur l'autoradio de ses parents, dans la voiture familiale, et il pensait que cette dame n'existait pas. Alors, faire un biopic des années plus tard, sur quelqu'un qui n'existe, quand on a pensé qu'elle n'existait pas, ça, c'est de la poésie pure. Effectivement, Uma Thurman a raison. Il n'y a pas de poésie chez Dalida, quand c'est Azuelos. Il y a de la poésie en permanence chez Barbara quand c'est Amalric, parce que il parle de lui. Il parle de lui, il parle de sa femme, et il parle évidemment aussi de Barbara. De même, que Piala parlait de lui et de Dutronc dans son Van Gogh.
Thomas Borès, qu'est-ce qu'on attend finalement d'un biopic? Puisque on connaît ces gens, on connaît leur histoire. Qu'est-ce qu'on attend d'un film qui va raconter leur vie?
Moi, en tant que spectateur, ça fait toujours peur. C'est-à-dire qu'on n'attend rien, justement, parce qu'on se dit on a déjà tout. Alors qu'est-ce qu'on va nous apporter? Alors c'est vrai que Amalric, même si j'ai des réserves sur le film et que je vois très bien le procédé, que je vois un peu toutes les coutures du film et que au bout d'un moment, je trouve que ce processus un peu intellectuel.
Ils sont pas cachés,
justement, mais c'est pas grave. Ils l'assument, c'est le film qu'il a eu envie de faire. Voilà. Bon, après, l'idée de voir un peu toutes les coutures du film, j'ai plus l'impression de voir un grand making-of sur le film qu'il a envie de faire, plus que le film lui-même, ce qui n'est pas inintéressant, encore une fois. Mais en tout cas, voilà, par exemple, quand on fait un biopic, je pense que la moindre des choses, le réalisateur se demande par quel bout je vais le prendre. Lisa Azuelos, elle se dit, ah bah tiens, chaque chanson va raconter des épisodes de Dalida. Bah déjà, il faut déjà supporter d'écouter pendant 2h20 des chansons de Dalida. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient très indigeste. Du coup, c'est le best-of qui se suffit à lui-même pour parler d'un personnage. C'était vraiment la fausse bonne idée. La bonne idée d'Amalric, c'est de se dire, bah, je vais faire un film sur Jeanne Balibar. Et c'est vrai qu'alors après, on peut aimer ou pas Jeanne Balibar, mais c'est un film, c'est Jeanne Balibar. Genre Barbara, elle est là un peu, mais comme un fantôme.
Ça fait penser au De Saint-Laurent, Jalil Lespère qui commençait par le petit Saint-Laurent qui dessine sa mère l'appel pour les dîners, et celui de Bonello qui commençait à lui qui rentre dans un hôtel pour aller se suicider.
C'est quoi Saint-Laurent? C'est le style.
Oui.
Donc le style, ouais. Qu'est-ce que fait Bonello? Il fait un film de styliste.
Ouais.
Voilà.
Alors, autre démarche encore plus radicale, c'est celle de Bruno Dumont. Et pourtant, Jeanne d'Arc, elle a été vraiment beaucoup filmée aussi. Alors, il y a Ramos, Besson, Bresson, Preminger, Dreyer. Celle de Dumont,
Rivette,
bien sûr. Pardon.
Rossellini.
Oui, Rossellini. Là, il imagine la petite Jeannette. Alors, c'est du Peggy dans le texte, chanté, scandé, chorégraphié par Découflet. On écoute Bruno Dumont.
Quand j'aurai fait lever le siège d'Orléans, quand j'aurai sauvé de sa prison monsieur le duc d'Orléans, je ferai sacrer monsieur le dauphin à Reims dans la belle cathédrale.
T'as dit tout ça lui-même, le bon Dieu?
Non, mon oncle, il m'a envoyé monsieur Saint-Michel, madame Sainte-Catherine et madame Sainte-Marguerite pour me parler.
Vous avez donc laissé les bandes ravageuses enflammer nos maisons.
Il n'y a que vous pour trouver une association entre comédie musicale et Charles Péguy.
Oui, ça c'est vrai. Non mais je pense que la seule façon d'accéder à Péguy, qui est un écrivain extraordinaire, mais totalement clos, quoi, et en même temps il y a une clôture dans Péguy qui empêche, mais c'est génial, enfin c'est vraiment un génie. On le sait, c'est un génie de la poésie, mais pourquoi, la question que je me pose, c'est pourquoi reste-t-il aussi enfermé dans quelque chose qui est inaccessible? C'est le propre de la poésie quand même. Et je me suis aperçu, en fin de compte, quand on regarde l'histoire de la musique chorale, c'est quand même, la poésie est là tout le temps dans la musique. C'est-à-dire, toute l'histoire de la musique, bah, c'est de la poésie. Et qu'on écoute une chanson de Brel ou qu'on écoute les Rolling Stones, on s'aperçoit, ou du rap même aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est la musique qui porte la poésie et qui la rend audible, en fait.
Et la grâce de la poésie et le pragmatisme d'un tournage, ça va comment ensemble?
Bah, ça se passe plutôt pas mal. C'est justement, je pense que la musique était la solution pour l'accès à Péguy. C'est-à-dire, Péguy, chanter, ça va. Pas chanter, c'est plus difficile, mais chanter, ça va. Donc après, il fallait trouver le sujet. J'ai pris un sujet assez convenu, c'est Jeanne d'Arc. C'est pas très original. Ce qui est peut-être plus original, c'est son enfance. Alors Péguy, justement, il en parle. Donc il a écrit la première partie de sa pièce Jeanne d'Arc, c'est l'enfance. Et ensuite, ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est travailler avec une enfant. Ça, c'était assez extraordinaire. C'est-à-dire de voir une petite fille haute comme trois pommes dire du Péguy, c'est extraordinaire. C'est-à-dire il y a une disproportion, il y a quelque chose de fantastique que cette petite fille de 8 ans dise du Péguy. Moi, je trouve ça déjà génial.
C'est fou comme son image est brouillée, parce que moi, pendant le film, j'ai pensé au Front National qu'il a récupéré. J'ai pensé à Macron, qui a quand même construit son discours le plus important là-dessus. On ne peut pas s'en empêcher.
Oui, mais il faut effacer ça, parce qu'elle couvre tout le champ de la pensée française, en fait. Elle est à droite et à gauche, et en même temps. On ne peut pas la prendre dans ses filets. C'est impossible, puisqu'elle est le contraire en permanence de ce qu'elle dit. Elle est à la fois sur un sol, sur une terre, sur un pays, mais elle veut monter dans l'universel. Donc elle n'est pas c'est pas une patriote obsédée par la France, absolument pas. C'est pas le sens du tout de... C'est même pas... Quand Péguy écrit ça, il était athée socialiste. Donc il donnait une dimension universelle. Donc elle est tout à fait rebelle à la... On peut pas la prendre. Elle est contraire. Elle est à la fois une sainte, une guerrière. C'est à la fois une paysanne, une femme du peuple, et en même temps, c'est une guerrière qui monte au ciel. Elle est à la fois contre l'Église, pour l'Église, brûlée par l'Église, sanctifiée par l'Église. Mmh. Elle met le roi sur son trône et le roi la laisse tomber. Elle est à la fois proche du peuple et les non, elle est d'une contradiction incroyable, et je trouve qu'elle est très française. C'est pour ça qu'elle est aussi française, c'est qu'elle peut être Jaurès adoré, Jeanne, et Maurras aussi.
Et Pétain et De Gaulle.
Pétain et De Gaulle, c'est la France. Bah, qu'on feuille ou pas, c'est comme ça. Donc il faut accepter le mal français et dans Jeanne d'Arc. Tout le monde est touché par la Jeanne d'Arc. Je pense qu'elle a une grâce qui fait qu'elle ne laisse personne indifférente, mais elle touche aussi l'homme grossier. Parce qu'elle a quelque chose de grossier, aussi. C'est quand même une paysanne qui est quelqu'un du peuple, voilà. Qui est quelqu'un de simple, oui. Qui accède à quelque chose de très très élevé. Oui. Mais le plus surprenant, moi j'étais assez surpris de découvrir la puissance de la pensée intellectuelle de Peggy. C'est quelqu'un qui pense la modernité, qui pense les contraires. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense le temps présent, qui ne croit pas du tout à la politique, qui ne croit pas du tout. Il a quitté le Parti socialiste. Il a critiqué fortement les catholiques. Donc il ne croit pas ni au paradis céleste ni au paradis terrestre du socialisme. Il pense que la vérité est dans le temps présent. C'est-à-dire qu'il faut jouir du temps présent. Il n'y a que le présent qui est là. Il ne faut pas ajourner. Les politiques devraient réfléchir, ne pas ajourner le présent en permanence pour nous promettre une lune. Le bonheur est là maintenant. Et le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est pendant 1h30, vous devez culminer dans le présent. Et voilà, et je pense que le sens de l'art, le sens du cinéma, le sens de Peggy, c'est ça, c'est de faire fructifier le présent et de nous donner le bonheur maintenant, tout de suite, et pas nous promettre pour demain.
Thomas Borès, folle est l'histoire de cette femme, et donc fou est ce film.
Fou est ce film, et surtout, Jeanne d'Arc, si elle a été autant adaptée au cinéma, en tout cas sa vie, elle entendait des voix quand même, elle se faisait des films, donc elle a inventé le cinéma, Jeanne d'Arc. On comprend donc du coup que tous les cinéastes décident de s'en emparer, et ce que j'aime bien avec le travail de Dumont, c'est que c'est surtout, plus qu'un travail sur Peggy et sur Jeanne d'Arc, c'est un travail de Dumont, c'est-à-dire comment on filme des paysages sidérants, il déplace Don Rémy à Audrecelles vers la côte d'Opale, et surtout comment on déconstruit totalement l'objet même du cinéma. Vous aviez parlé de Godard et dans 1967, quand il décide de faire une espèce de revirement artistique, c'est ce que fait Dumont tout le temps, et c'est peut-être l'un des seuls cinéastes aujourd'hui qui fait ça.
Merci, vous restez avec nous bien sûr. On se retrouve pour les sorties après Jesse Reyes, Shutter Island.
Goodbyes are getting old. Next time you can go ahead and go. I'm tired of begging you to love me.
Like you mentioned, fighting.
Goodness gracious, you're amazing. According to you, I'm a lucky lady. Wait. So why'd you lie to me?
Huh?
Why you cry to sleep?
Huh?
Goodness gracious, I'm replaceable.
Yep.
You say that I'm too crazy.
Yep.
I guess you were right.
Yep.
I guess you were right.
Like
sorti. On va commencer par Barry Seal, American Traffic de Doug Liman avec Tom Cruise. Encore une histoire vraie. Celle d'un pilote recruté par la CIA. On est sous Reagan pour livrer informations et armes au contrat les contre-révolutionnaires nicaraguayens pour faire chuter justement le socialisme sandiniste. Seal va profiter de la situation pour alimenter perso un trafic de drogue, celui d'un cartel colombien avec à sa tête Pablo Escobar. Critique cachée de la politique américaine, de la compétence de l'administration Reagan, mais bien cachée sous un...
C'est très caché.
Hein.
L'alibi politique est vraiment fallacieux.
C'est vraiment grattage. Hein.
Non, mais moi j'aime bien le film.
Tom Cruise est complètement naïf par rapport à tout ça.
Complètement naïf, mais je pense qu'il s'en fout.
C'est du style, je suis content de faire un film d'action et...
Complètement. Moi ce que j'aime bien, c'est que ça donnait un peu l'impression d'une espèce de boucle spatio-temporelle, la même scène qui se reproduit à l'infini. Il avait fait, Doug Liman et Tom Cruise ensemble, The Age of Tomorrow, qui était quelqu'un, un film de science-fiction qui était bloqué dans une boucle spatio-temporelle. Barry Seal m'a fait penser un peu à ça. Mais je trouve que c'est amusant comment... Tom Cruise s'amuse avec ce personnage. C'est pas très intéressant. Je vois Monsieur Delmas qui lève les yeux au ciel, mais
non, même pas Monsieur Morales.
Non mais ça va. C'est assez, c'est très vitaminé. Voilà. C'est bien brûlé.
On l'a déjà oublié.
Bon plaisir. Oh là là.
Passons au film suivant.
Nos années folles. André Téchiné avec Pierre Deladonchamp et Céline Sallette, la véritable histoire de Paul qui après 2 années au front se mutile et déserte. On est dans la guerre de 14-18, bien sûr, pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme dans le Paris des années folles et il devient Suzanne, là aussi, donc c'est une histoire vraie racontée dans La Garçonne et l'Assassin et également dans une BD Mauvais Genre.
Oui, qui était d'ailleurs très très bien la BD, ça fait beaucoup finalement sur cette même histoire, ça commence à s'accumuler. Je suis pas sûr, hélas, que la contribution de René Téchiné, pourtant Dieu sait si j'aime ce cinéaste, soit la plus réussie des trois. On voit bien les références, par exemple à Ophuls, Michel Faux joue le personnage du Stinov dans La Montesse, c'est évident, bon, il y a des choses comme ça, mais tout ça est très théâtralisé. Tout ça est beaucoup, à mon sens, un peu trop stylisé pour une histoire qui devrait être une sorte d'opéra incroyable, quoi. C'est quand même une histoire, on a du mal à y croire. Et finalement, moi, je crois que le vrai film, il est dans la ressemblance incroyable que pas grand monde n'a noté, je m'en étonne moi-même, entre Céline Sallette et Deladonchamp. Ils se ressemblent, ce couple se ressemble. Ils sont aussi androgynes l'un et l'autre. Et je crois que c'est ça qui a intéressé André Téchiné, mais il n'a pas voulu se l'avouer tout à fait. C'est dommage.
Mary de Mark Webb, un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce qui témoigne d'un don hors du commun pour les mathématiques. Bref, un petit génie que la grand-mère va s'obstiner à encourager et à isoler. Et cette question au cœur du film, digne d'un débat du feu des dossiers de l'écran, comment éduquer une enfant surdouée? Jolie histoire, prévisible, tire-larme, énième éloge de la famille, sauvée in extremis par la petite actrice McKenna Grace. Elle a 11 ans et déjà une sacrée filmo derrière elle.
Si vous avez encore envie de voir le film, c'est que vous n'avez pas écouté ce qui vient d'être dit.
Les grands esprits de Olivier Ayache Vidal, François Foucault, c'est Denis Podalydès, la quarantaine et professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV à Paris. Une suite d'événements le force à accepter une mutation d'un an dans un collège de banlieue classé REP dans le 9-3. Donc il redoute le pire. Un sujet 1000 fois traité, une réflexion sur la pédagogie.
C'est-à-dire que tout est tellement en place. D'un côté, Podalydès qui vient expliquer aux banlieues comment il faut lire Victor Hugo. Mais oui, Victor Hugo est moderne et la petite Cosette, elle pourrait parler en verlan si elle était là aujourd'hui. Au bout d'un moment, c'est assez ennuyeux et je trouve que je trouve que c'est une manière un peu très paternaliste d'aborder justement l'éducation et l'éducation dans des zones,
Collège de banlieue qui est assez rap. Laurent, vous avez vu The Party?
Oui.
C'est de Sally Potter, juste pour le lancer.
Oui, avec
huis clos, théâtral, en noir et blanc, avec un casting costaud. Christine Scott Thomas, Timothy Spall, Bruno Gans, Emily Mortimer. Enjeu intime et politique, puisque Janet, qui est incarnée par Scott Thomas, vient d'être nommée ministre de la Santé. Donc on est enfermé dans cet appartement. Je disais enjeu intime et politique, parce qu'il y a tromperie, mais il y a aussi... une espèce de réflexion, métaphore sur la situation en Grande-Bretagne. D'ailleurs, le tournage s'est déroulé en même temps que les Anglais votaient pour le Brexit.
Ouais, c'est du gros théâtre filmé, c'est sûr. Ça dure pas trop longtemps. Déjà, ça c'est un gros avantage quand même. Il y a pas une durée excessive. On n'a pas trop le temps de s'ennuyer à voir et à regarder ces sexagénaires bourgeois vaticinés sur la politique, eux-mêmes, l'intime, vous le disiez, le public avec une fin qu'on ne révélera pas, qui se veut une sorte d'attrape-nigaud. Tout ça n'est quand même pas très très intéressant.
On peut le comparer presque au film de Polanski dans l'appartement qui avait lieu à New York, vous vous souvenez ? Huis clos.
Oui, celui qui est adapté de Yasmine Reza.
Exactement.
Oui, c'est vrai. Le dieu, je ne sais plus comment il s'appelait. Voilà, vous me
posez. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Polanski est en nombre de deux films,
c'est vrai,
et même de. Mais oui, même de Mother.
Vous
êtes sacrifié pour y aller, de Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, perturbant leur tranquillité.
Oui, c'est normal, c'est Ed Harris qui joue ce rôle-là, c'est Ed Harris, un ami qui vous veut du bien, bien sûr. Ça, il fallait que je la fasse absolument. C'est fait. Bon. Non, mais ça y ressemble. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, au début, la première heure est pas si mal que ça, parce qu'on est dans ce genre de film-là, où après tout, c'est un peu inquiétant, étrange. Tout est vu du point de vue d'elle, de Jennifer Lawrence. Elle est effectivement très, très inquiète sur ces gens qui arrivent et qui troublent son ordre domestique. Et puis après, tout va vraiment à volo. Plus le film avance, et notamment dans sa seconde heure, où là, ça devient totalement incrédible avec cette pensée aronofskienne où il faut impérativement que le corps soit le reflet de l'environnement, comme c'était déjà le cas dans Black Swan, et ça devient assez grotesque, il faut le dire, et même malaisant, je trouve. Voilà.
Pourtant, on aime Aronofsky d'habitude, non ?
Pas toujours. Ça fait typique. En fait, le travail critique, on a tellement dit qu'il était génial au tout début, avec Pi notamment, et Requiem for a Dream, qu'il a fini par le croire. Et aujourd'hui, donc, il est un peu en boucle. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un bon film, Aronofsky.
Nous sommes d'accord.
En revanche, vous avez le temps de parler, Laurent, d'une reprise, Titty Cut Follies, le premier film de Frederick Wiseman en 67, tourné à Bridgewater dans le Massachusetts, dans une prison d'État psychiatrique qui atteste de la façon dont les détenus sont traités par les gardiens, les assistants sociaux et les médecins. Un film qui a été interdit aux États-Unis pendant 20 ans.
Exactement, on l'a accusé de pornographie parce qu'il montrait ce qu'était la réalité carcérale de cet environnement. Donc prison psychiatrique, c'est drôle parce qu'on a passé un morceau de musique qui s'appelait Shutter Island. Shutter Island à côté, c'est les bisounours, hein, par rapport à ce qui est montré ici. Les gens sont immédiatement rasés, tondus, on les intube, on les nourrit à la sonde par force, on finit par les bombarder de gaz lacrymogène s'ils sont décidément trop bruyants. Et finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est le fond, bien sûr, mais c'est la méthode Wiseman qui se met en place. Un lieu unique, pas de scénario préalable, c'est-à-dire on ne sait pas où on va, il ne sait pas où il va, et nous non plus, donc pas de voix off, pas de commentaires, on ne nous impose rien, et on fait une sorte d'immersion totale, en général très longue, mais très bienfaisante, au sens, la bienfaisance de Wiseman, c'est de nous montrer le réel tel que il le voit, et tel qu'il est certainement. Il faut se recevoir ça en pleine figure, hein, franchement.
Moi j'aimerais évoquer un film qui est sorti cet été, je sais pas Thomas si vous l'avez vu, c'est Que Dios nos pardonne. C'est un polar espagnol signé Rodrigo Sorogoyen. Madrid, été 2011, ambiance, émergence des indignés et visite imminente du pape dans ce contexte tendu. Deux flics enquêtent sur un serial killer, une intrigue oppressante, tendue, noirissime, et sortent surtout une étude de caractère incroyable et passionnante de ces deux personnages. Un macho, un beg, une forme de marginalité sociale. Vous l'avez pas vu, Thomas ?
Si, je l'ai vu, et c'est un film qui aime bien nous faire...
Il est poisseux, ce film.
Oui, il est poisseux. C'est un film où on sent que le réalisateur veut dépasser le sujet qu'il est en train de raconter, le simple thriller, et donc du coup, ça devient une espèce de portrait caléidoscopique de tous ces personnages. Moi, ça m'a troublé, c'est assez vertigineux.
Mais plus intéressant que Le Guerre Confidentiel, qui ne s'attachait pas assez aux personnages, selon moi.
Moi, j'ai bien aimé Le Guerre Confidentiel pour cette ambiance très héritier des films noirs. Je trouve que ça, c'était autre chose. Je préfère ça, Le Clair Confidentiel, au côté un petit peu trop, à la structure un peu trop voyante du film.
C'est honnêtement une bonne surprise de l'été.
Oui.
En film étranger, en tout cas.
Ils sont encore en salle, allez-y, hors de Paris, etc. Que Dios nos pardonne. Merci à la librairie La Manœuvre. Laurent, on signale.
Une petite info. D'abord que la BO, de très belle BO de Gauguin, de Warren Ellis, est disponible sur CD. Et puis, Vincent Cassel, Monsieur Gauguin, sera chez Monsieur Trapenard lundi à 9h sur cette même chaîne.
Merci beaucoup. Merci Thomas Borel.
Merci à vous.
Générique avec Jean-Louis Garel Godard pour le plaisir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs, il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Je porte au contexte, a écrit la musique du générique, les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Marie Boudbès s'est occupée de la préparation, c'est une émission réalisée par Anne Weinfeld. Elle est produite et présentée par Christine Masson, mais Laurent Delmas aussi y a mis un peu du sien. Il y avait Bertrand Bonello qui était assis aussi dans la pièce du milieu. Il y avait Thomas Pitquin qui regardait ses mains. Moi, je lui demandais juste une chose, pourquoi tu pensais cinéma, mais tu le vivais ton cinéma. Tu préparais ton film. Est-ce que ton film, il était préparé par toi ou par ton producteur?
Par moi.